Bonjour à tous. Alors, il y a quelques visages que je ne connais pas. Donc, je suis à Jean-Jacques et avec Mathieu, je suis pasteur ici. La semaine passée, Mathieu, justement, a introduit une nouvelle série de prédications sur la lettre de Jacques. Et il a évoqué que cette lettre, finalement, tourne autour de trois thèmes majeurs qui reviennent un petit peu tour à tour. Le premier thème de cette lettre, c'est les épreuves, la tentation, l'endurance. Le deuxième thème, la sagesse, et notamment dans l'usage que nous faisons de notre bouche. Et puis le troisième thème évoque la richesse, la pauvreté, la générosité. Aujourd'hui, avec notre texte du jour, nous allons revenir sur le premier de ces thèmes, celui de l'épreuve. Je ne saurais pas vous dire combien de personnes j'ai rencontrées et je m'inclus dans ces personnes-là, en fait, qui, devant l'épreuve, finalement, se sentent humiliées, se sentent punies ou rabrouées par Dieu. Vous savez, Dieu qui vous regarde avec un air un peu méchant du haut des cieux, qui vous accable. Et peut-être que l'épreuve qui est le plus propice à cela, c'est la maladie. Pourquoi ? Parce que quand nous perdons notre travail, bon, on peut toujours blâmer notre patron, finalement. Au moins pour son manque de compassion ou son incapacité à gérer complètement l'entreprise qui fait que c'est nous qui perdons notre travail. Quand notre mariage se passe mal, on est deux dans la barque. Et au moins une partie des torts peuvent être portés de l'autre côté. Mais quand j'ai pas fumé et que j'ai le cancer des poumons, quand j'ai travaillé juste dur pour nourrir ma famille et avoir un logement et que j'ai le dos brisé et que je ne peux pas me lever, ou quand la maladie frappe celui ou celle que j'aime, qui est-ce que je pourrais bien blâmer si ce n'est Dieu, finalement ? Nous avons vécu, nous vivons, nous vivrons des situations où nous rencontrerons la dureté, l'injustice de l'épreuve. Mais ce que nous affirme le passage d'aujourd'hui, c'est que Dieu déclare béni ce qu'il aime, car il traverse les épreuves en tenant bon. Et je voudrais lire avec vous, dans la lettre de Jacques, au chapitre 1, les versets 12 à 18. Alors, la lettre de Jacques, c'est juste après celle aux Hébreux, qui est légèrement plus épaisse et qui peut vous aider à vous retrouver. Pour ceux qui ont une Bible de la même édition que moi, c'est à la page 797. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et lui ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par sa parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Dieu déclare béni ce qu'il aime, car il traverse les épreuves en tenant bon. Et je voudrais apporter ce texte au travers de trois points. Regardez plus loin, regardez plus profondément, regardez plus haut. Imaginez que votre voisin vous ait dit ce matin qu'il est heureux parce que sa voiture est tombée en panne ou parce qu'il a perdu ses clés. Est-ce que vous ne diriez pas qu'il a quelque chose de bizarre, celui-ci ? Pourtant, c'est pas bien grave d'avoir sa voiture en panne ou de perdre ses clés. Mais alors imaginez maintenant le côté scandaleux qu'il pourrait y avoir à affirmer le bonheur dans l'épreuve quand celle-ci est vraiment dure, quand on affronte le cancer, quand on affronte le divorce, quand on affronte toutes sortes de choses qui sont bien plus grave que de perdre ses clés. Ce n'est pas ce que nous dit notre texte, en fait. Le texte ne dit pas que nous sommes heureux. Il dit que Dieu nous déclare heureux, qu'il déclare heureux ceux qui tiennent bon au cœur de la souffrance et de l'épreuve. Et il nous donne une première clé pour comprendre cela. Il nous dit « Regardez plus loin ». Jacques dit finalement que ceux qui ont traversé ces épreuves sans faillir vont recevoir la couronne de vie. Et le terme qui est employé pour cette couronne, en fait, désigne, vous savez, les couronnes de laurier que l'on donnait aux vainqueurs d'une course. Mais, ok, je reçois une couronne, mais que devient cette couronne ? Est-ce que certains d'entre nous vont porter des couronnes dans l'éternité ? Moi, j'ai eu la couronne de justice, et toi, celle de gloire. Et toi, qu'est-ce que tu as comme couronne ? Que vas-tu porter pendant l'éternité ? Je ne crois pas que ça se passe tout à fait comme ça. En fait, quand on regarde dans l'Apocalypse, au chapitre 4, on voit que les anciens prennent ces couronnes et qu'ils les jettent aux pieds de Dieu. Et qu'en fait, finalement, ces couronnes servent à glorifier Dieu. Elles sont un acte d'adoration devant Dieu. Alors voici ce qu'on peut comprendre de cette première section. Nous n'arriverons pas au ciel tel que nous sommes. Par les épreuves, Dieu nous façonne. Et l'éternité n'est pas une remise à zéro, ce n'est pas une nouvelle personne qui va arriver au ciel. Il n'y a pas un côté la vie sur terre et puis une rupture brutale avec d'un autre côté la vie au ciel. Peu à peu, Dieu nous façonne. Peu à peu, Dieu nous rend conforme à ce que nous devrions être. Peu à peu, Dieu nous prépare pour le ciel. Peu à peu, nous devenons parfaits, nous sommes sanctifiés. Et Dieu achèvera cela de manière complète dans l'éternité. Vous souffrez, ou l'un de vos proches souffre, et c'est dur à supporter. Regardez plus loin. Souvenez-vous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous ne le voyez pas aujourd'hui, et c'est normal. Nous vivons dans un monde qui n'est pas tel qu'il devrait être. Nous vivons dans un monde qui est injuste et peuplé d'injustices. Mais regardez plus loin. Tenez bon. Un jour, cela contribuera à la gloire de Dieu. Un jour, vous vous présenterez devant lui en jetant votre couronne à ses pieds. Vous vous présenterez transformé par les épreuves que vous aurez traversées en tenant bon dans les mains de Dieu. Mais ce texte ne nous dit pas seulement ça. Il nous dit que nous devons aussi regarder plus profondément. En fait, ce texte veut nous inviter, chacun d'entre nous, à ne pas nous servir des épreuves comme une excuse pour pécher. Vous savez, on pourrait facilement glisser d'un côté où Dieu veut nous sanctifier par les épreuves et nous, nous nous servons des épreuves pour pécher. Jean Daniel a perdu son travail, mais il est confiant. Parce que Dieu va l'aider. Et sans doute, finalement, il y a une bonne raison, vous savez, derrière cela. Peut-être que Dieu a quelque chose de meilleur en réserve pour lui. Les jours passent et les réflexions sont là sur ce qu'il aimerait faire, sur ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Est-ce qu'il va continuer avec son métier, se réorienter ? Jean Daniel accumule les CV, il prie avec joie avec ses frères et sœurs, il va à la réunion de prière et c'est une étape importante dans sa vie et il le voit. Les mois passent, Jean-Daniel continue de prier, mais le plus souvent seul, parce qu'il ne se sent pas très bien. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas ? Qu'a-t-il fait de mal ? Il a toujours su qu'il n'a pas une vie parfaite comme chacun d'entre nous. Mais maintenant, il commence à le vivre plus durement. Il sent le regard de Dieu s'appesantir sur lui. Il dort mal. Il voudrait en parler, mais il ne peut pas. Même avec sa femme, parce qu'il ne veut pas l'inquiéter. Plus d'une année s'est écoulée, et Jean Daniel voit ses droits au chômage arriver au bout. Que va-t-il faire ? On lui a bien proposé quelque chose, mais c'est un travail au noir. A-t-il vraiment le choix ? Maintenant, il est en colère contre Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Ou en tout cas, pas complètement. N'est-ce pas ce que nous disons ? Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez entendu quelqu'un dire « J'ai péché, c'est totalement de ma faute. Je suis entièrement coupable. » Pour Adam, c'était la faute de Ève et de Dieu. Pour Ève, c'était la faute du serpent. Et cela nous concerne tous. C'est une conséquence de la chute. Nous cherchons un coupable à l'extérieur. Mais notre texte nous dit, n'y pense même pas. Ne pense même pas à blâmer Dieu pour tes fautes. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et lui-même, il ne tente personne. Au moins, c'est clair. Dieu nous éprouve, mais ne nous tente pas. En fait, dans le texte grec, c'est le même mot qui est utilisé pour les deux, et c'est le même mot que nous retrouvons dans la prière de Jésus, dans Matthieu 6, et qui crée des complications à nos amis catholiques en ce moment qui ne savent plus trop comment traduire le texte. La différence qu'il y a entre l'épreuve et la tentation, c'est l'intention qui se cache derrière. Dieu nous éprouve pour nous rendre parfaits, Satan nous éprouve pour nous conduire à pécher. L'intention est différente. Un des exemples frappants, on le trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Vous vous souvenez de cet épisode ? Jésus est conduit dans le désert et il est tenté par Satan. Et il va même jusqu'à Satan va jusqu'à lui promettre « Je vais t'offrir tous les royaumes du monde si tu te prosternes devant moi. » Satan le tente pour qu'il pêche. Mais comment est-il arrivé dans le désert ? Quand on regarde au tout début du chapitre, au verset 1, l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert. Dieu a éprouvé Jésus, mais pas pour qu'il pêche. Pourquoi alors ? Parce que dès la fin de cette épreuve-là, son ministère public va commencer. Et Dieu a éprouvé Jésus pour montrer qu'il est saint et que son ministère public est valable. Et que finalement, nous pouvons être rachetés parce que Jésus est saint et il peut payer à notre place. Vous voyez la différence ? Ce texte l'affirme de manière très claire. Que même au plus fort de l'épreuve, Dieu ne désire pas que vous péchiez et Dieu ne fait rien pour que vous péchiez. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est ce que nous rappelle Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 10, au verset 13. Alors qui blâmer ? Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ah non. En tout cas, ce n'est pas l'accent de notre texte. Ce n'est pas ce que dit le texte de ce jour. C'est quelquefois vrai. Mais ici, Jacques nous dit qu'il faut regarder plus profondément, au fond de nos cœurs, pour y trouver le désir que nous avons entretenu et qui nous a menés à pécher et qui nous a menés à la mort. Avez-vous vu la différence ? Dans la première section, l'épreuve conduite par Dieu a pour objectif la couronne de vie dans l'éternité, dans la présence avec Dieu. Ici, le désir inadapté, immodéré, qui est quelquefois traduit « convoitise » dans certaines de vos Bibles, conduit au péché qui mène à la mort, à la séparation avec Dieu. Il y a une illustration qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. Souvenez-vous juste de cela. Si vous vous souvenez de cela, ce matin, ce sera déjà pas mal. Quand on renverse le bocal, ce qui sort, c'est ce qui est à l'intérieur du bocal. D'accord ? Quand je renverse le bocal, ce qui sort, c'est ce qui est à l'intérieur du bocal. Imaginez la situation. Vous conduisez tranquillement, tout juste à 90 sur une petite route de nationale. Quelqu'un commence à s'impatienter derrière vous et il se rapproche, jusqu'à vous coller juste derrière vous. Vous n'avez même pas un endroit pour le laisser passer. Et puis, peu à peu, vous le voyez faire des grands gestes d'énervement et il klaxonne. Vous sentez la moutarde qui vous monte au nez ? Tout à coup, il finit par vous doubler en trombe. Il vous fait une queue de poisson, il pile devant vous et il se met à rouler à 40 km/h, histoire de bien vous montrer ce que ça fait que d'être derrière quelqu'un qui ne va pas assez vite. Et vous explosez de colère dans votre voiture. Lui, il a renversé le bocal. Et ce qui est sorti, c'était ce qui était à l'intérieur de vous. Lui, il a renversé le bocal. Mais ce qui est sorti, c'était à l'intérieur de vous. La colère était là et elle était prête à jaillir à la bonne sollicitation. Dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, il y a une incitation intérieure à pécher. Dieu peut nous soumettre, nous permettre les épreuves, mais il n'est pas l'auteur de la tentation. Le péché n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur, au fond de nos cœurs. Quelle application pour nous aujourd'hui ? Quand l'épreuve et la tentation sont là, ce passage nous invite à regarder plus profondément. Notre texte, notre réflexe naturel, c'est de blâmer Dieu, le monde, Satan. Mais ici, Jacques nous dit, et si tu regardais ton cœur ? Nous ne pouvons pas contrôler nos désirs. Et même nos désirs les plus purs peuvent devenir une source de péché quand ils prennent une place anormale dans notre vie. Je veux vivre en paix, c'est un désir normal, mais je ne supporte plus aucune contrariété. Nous ne pouvons pas contrôler nos désirs, mais nous pouvons les confesser. Nous pouvons les amener à Dieu. Nous pouvons en parler à un proche. Nous pouvons lui demander de prier pour nous. Nous pouvons prendre des décisions radicales dans nos vies qui nous servent à surmonter nos faiblesses. En regardant plus profondément, nos prières changent. Parce que finalement, nous ne regardons plus les problèmes à l'extérieur de nous. Nous ne prions plus pour que nous ayons des voisins qui soient sympas, que nous ayons des gens à l'église qui soient agréables, que plus personne ne nous assaille. Nous prions pour que notre cœur soit juste. Nous prions pour que Dieu transforme notre cœur. En regardant plus profondément, nos comportements changent aussi. Parce qu'en devenant réalistes vis-à-vis de nous-mêmes, nous pouvons prendre de vraies dispositions contre le péché. Si ton œil droit est une occasion de chute, disait Jésus, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur, corps entier, ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il faut qu'on arrache un œil ? Non, bien sûr. Il est en train de dire que nous devons prendre des mesures radicales vis-à-vis du péché. Donne ta télé. Mets un programme anti-pornographie sur ton accès Internet. Se débarrasser de son smartphone. Déménager. Changer de travail. Tout ce qui contribue au fait que je n'encourage pas mes désirs à devenir des péchés. Mais pour cela, nous devons regarder plus profondément que les simples apparences. Regardez plus haut. Dans la troisième section, Jacques veut nous montrer que de ne pas entretenir nos désirs finalement n'est pas suffisant. Nous devons faire encore une chose, c'est regarder plus haut. Et à partir du verset 16, si vous regardez dans vos Bibles, vous voyez qu'il nous montre ce que nous devons regarder. Ne vous y trompez pas. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Est-ce que c'est vrai ? Question sérieuse. Est-ce que c'est vrai ? Alors moi, très honnêtement, je suis un peu embêté. Parce que c'est vrai, parce que la Bible dit. Mais ce n'est pas vrai dans ma vie. Ce n'est pas vrai du tout dans ma vie. Il y a plein de choses que je mettrais avant ce qui vient de Dieu dans les choses qui sont bonnes et parfaites dans ma vie. Ne vous y trompez pas. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Avez-vous l'impression que votre joie et votre bonheur peuvent venir de cette terre ? Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est bon, agréable et parfait vient du ciel. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus de cela? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Croyons-nous que la seule satisfaction de nos désirs peut nous donner le bonheur? Ça, c'est la vision du monde. Et elle est terriblement attrayante. Il est terriblement difficile d'y résister. Comment changer? En regardant plus haut. Et regardez dans la suite. Dieu est présenté comme créateur des lumières, créateur du soleil, des étoiles, Dieu qui illumine sa création, Dieu qui est parfaitement saint, en qui il n'y a aucun mal. Voyez-vous cela ailleurs? En même temps, Dieu est présenté comme parfaitement immuable. Il ne change pas. Depuis l'acte de création originel, il déroule un plan parfait. L'univers peut s'écrouler que Dieu ne changerait pas. Une des raisons à cela est suggérée dans ce texte. C'est que Dieu n'est pas soumis aux pressions extérieures comme nous. Rien ne le fait dévier du chemin qu'il a tracé pour nous donner la vie. Nous avons des projets, mais face aux événements, face aux personnes, face aux contrariétés, nous sommes amenés à dévier, adapter, prendre en compte. Dieu ne change pas. Son plan est parfait de toute éternité et va s'accomplir dans l'éternité future. Pas un seul iota ne va changer. Et Matthieu l'a rappelé, heureusement pour nous. Si Dieu changeait, c'est qu'il ne serait pas parfait. Succombant à leur désir d'un fruit qui semblait bon à manger, agréable à la vue, Adam et Ève ont laissé le péché s'introduire dans l'humanité. Et depuis, le monde est corrompu. Mais Dieu n'a pas changé. Ce qu'il veut, c'est nous donner la vie par sa parole. Ce que nous comprenons, c'est que Dieu, dès avant la création de la terre, avait un plan. Un plan qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il veut non seulement nous donner la vie en offrant son propre Fils, mais le texte nous dit qu'il veut aussi faire de nous les prémices de ses créatures. Quand on venait pour adorer, on amenait les prémices de ses récoltes, les premières, les meilleures, pas ce qui restait. Vous savez, vous venez à adorer et vous offrez un agneau. Lequel vous prenez? Celui qui a trois pattes et qui est malade, quoi. C'est pas le projet de Dieu pour nous. Nous sommes héritiers de Dieu. Les anges sont des créatures qui, des fois, nous fascinent, qui nous laissent, des fois, un peu perplexes. On se dit, mais il y a des pouvoirs, il y a des choses extraordinaires. Mais Jésus n'a pas été offert pour les anges. Les anges déchus n'ont pas de rédemption. Les anges ne sont pas héritiers de Dieu. Les anges ne sont pas les frères et les sœurs de Christ. Nous étions les derniers séparés de Dieu à cause de notre péché. Et Dieu veut faire de nous les premiers. Nous serons un jour glorifiés avec Dieu. Et je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça peut vouloir dire. Nous serons un jour glorifiés avec Dieu. Finalement, ce que nous devons entendre, c'est que quand nous visons à satisfaire nos désirs en péchant, c'est que nous avons visé trop bas. Et je voudrais vous laisser sur le cœur cette réflexion de David ou cette exclamation de David. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est plein d'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Psaume 13. Juste quelques mots pour conclure. Jésus ne nous a pas promis que la vie chrétienne serait un long fleuve tranquille. Au contraire, il nous a dit que nous vivons dans un monde déchu et que ce monde déchu génère des épreuves et des souffrances. Et l'apôtre Pierre va même plus loin. Il dit que parce que nous sommes chrétiens, Nous aurons en plus des épreuves spécifiques que les autres n'ont pas. Bienvenue dans la réalité. Si quelqu'un vous dit que parce que vous êtes chrétien, tout va bien aller, il a dû sauter quelques passages dans sa Bible. Mais au milieu de l'épreuve, rappelons-nous de regarder plus loin. Nous ne souffrons pas en vain. Dieu nous prépare pour l'éternité où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Regardez plus profond pour que l'épreuve souhaitée ou permise par Dieu ne trouve pas écho avec nos désirs inadaptés, immodérés et produise le péché dans nos vies. Regardez plus haut à Dieu qui est celui qui nous donne tout ce qui est réellement parfait. L'évangile qui nous sauve et qui nous régénère pour que nous soyons un jour glorifiés avec Dieu dans les cieux. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons remercier pour ce texte que tu nous donnes, qui nous rappelle que, effectivement, la vie n'est pas facile. Tu ne nous as pas promis une vie sans soucis, sans épreuves, mais qui nous rappelle que tu es ce Dieu parfait qui a un plan parfait pour nous et qui veut nous rendre parfaits. Peut-être que nous ne l'aurions pas fait comme ça. Peut-être que nous ne comprenons pas tout, mais tu ne nous demandes pas de tout comprendre, mais de te faire confiance. Apprends-nous à regarder plus loin, à voir ce que tu veux produire dans l'éternité. Apprends-nous à ne pas blâmer et à ne pas te blâmer, mais de regarder au fond de nos cœurs ce que nous avons entretenu, ce que nous avons laissé mûrir comme désirs qui sont inadaptés. Apprends-nous à mieux te connaître, à mieux découvrir tes perfections pour mieux t'aimer et mieux t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen.